Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGuayeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Bon, M. Legault était ici hier et le premier ministre nous a dit, en réponse à une question ici de votre modérateur, qu'il n'était pas impossible que la date du 15 novembre, là, qui est la nouvelle date pour l'entrée en vigueur du décret pour la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé, soit repoussée ou appliquée partiellement dans certains coins du réseau pour certaines catégories de travailleurs. Autrement dit, c'est pas un engagement, là, 15 novembre ferme, puis là, après ça, les mesures s'appliquent. On va évaluer ça au jour le jour. La question ce matin, quand le gouvernement joue comme ça avec des dates butoirs, est-ce qu'il demeure crédible? Luc.
T'as pas dit, la question je me pose tout le temps. La question je me pose tout le temps, en tout cas. Toujours est-il que il y a un glissement. Il y a un glissement par rapport au discours à première fois sur le la vaccination obligatoire. Rappelez-vous, jusqu'à la dernière minute, M. Dubé, M. Legault, non. Puis la veille même, il disait, si jamais, oubliez pas, là, si vous faites pas vacciner pour le 26, là, vous irez pas travailler, vous serez pas payé. Tu sais. Puis il y avait une menace qui était faite. Puis c'était une stratégie de faire cette menace-là. Et là, vraisemblablement, il y a changement de stratégie. Il y a changement de vision de la façon dont on va gérer la patente. Puis c'est assez important. Pourquoi il y a eu ce changement-là? Quatre grosses différences, je pense. Premièrement, les chiffres sont pas si mauvais. Il y a des pays qui s'en sortent encore mieux que nous, là, mais c'est pas si mauvais. On était à un plateau, puis même c'est un plateau qui est en train de descendre. Ça veut dire que si dans une situation où il reste encore un certain nombre de personnes qui ne sont pas vaccinées, tu as des chiffres qui descendent, bien, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire un affrontement? La deuxième chose, c'est que la solution miracle, dorénavant, la prochaine, c'est la vaccination des enfants. Donc,
je sais pas si tu as vu, en parenthèse, dans la presse de ce matin, il y a un médecin qui n'est pas d'accord avec la vaccination des enfants.
D'accord, oui, je suis persuadé qu'il va en avoir beaucoup. Là, puis effectivement, il faut se poser des questions, mais c'est la nouvelle stratégie. Avant, on disait il faut faire une barrière étanche pour que ceux qui ne sont pas vaccinés ne tombent pas malades. Et dans ceux qui ne sont pas vaccinés, évidemment, il y a beaucoup les enfants. Mais cette barrière étanche-là, on en a moins besoin si tout le monde est vacciné, y compris les 5 ans à 11 ans. La troisième chose, c'est que le passeport vaccinal fonctionne bien. C'est-à-dire que la société l'a adopté. Puis moi, j'avais mis des doutes en disant, est-ce que vraiment les restaurants vont te le demander, puis vont te demander ta carte d'identité, ou on te dit, passe, pas de problème? Ben non, ça se produit, ça fonctionne. Et la quatrième chose, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de cluster, comme disent les Français, c'est-à-dire de centre de contamination.
D'éclosion, là.
D'éclosion. Majeur. Il y en a un à Matépédia, semble-t-il, 3 écoles qui vont être à distance, etc. Mais il n'y a pas eu des tonnes d'hôpitaux et de CHSLD où tu as dit, regarde, il faut qu'on ferme. Alors, tout ça doit être pris en considération. Et ils font varier la décision.
Nathalie est au téléphone ce matin, je tiens à le préciser. À ton tour.
Oui, ben j'ai envie de vous dire que les dates butoirs pour un gouvernement, c'est dangereux. Et la décision de reporter cette date butoir, aux yeux de plusieurs Québécois, le gouvernement a perdu de la crédibilité. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, là. Ils ont reporté une première fois, peut-être une deuxième fois. Et qui peut croire encore aujourd'hui que le gouvernement va congédier des employés le 16 novembre prochain? Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui pense que ça va arriver, compte tenu de la fragilité du réseau de la santé actuel. Luc, tu parlais de la vaccination chez les enfants. C'est vrai que c'est la prochaine grande opération. Puis il faut juste se rappeler, pour la vaccination en matière d'enfants, pour les enfants, il y a 63% de parents, selon un sondage qui a été publié il y a quelques jours, qui sont favorables. Mais il y en a encore quand même, 37% qui hésitent ou qui sont contre la vaccination chez les enfants. Alors ça va créer encore des débats dans notre société. Mais quand même, disponible selon le gouvernement, selon la stratégie qui est mise de l'avant, c'est le dernier droit avant de sortir de l'état d'urgence sanitaire. L'autre éléphant qui est dans la pièce en matière de fragilité du réseau de la santé, c'est les urgences. C'est intéressant parce que le Journal de Montréal publie un article sur les pires urgences du Québec. On dit que les pires urgences craquent de partout. C'est pas 200 urgences, c'est 25 urgences qui ont rapidement besoin d'être mises au pas. En fait, il faut régler les problèmes à l'interne. Et ce qu'on apprend, c'est que 85% du problème repose sur des difficultés en matière de gestion. Il y a le manque de personnel, mais il y a les défis liés à la gestion. Alors, le gouvernement en a plein les bras actuellement, et je comprends cette ouverture qui peut être interprétée par un recul de la part du premier ministre. Mais en même temps, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la politique du bâton de la carotte, ça a fonctionné parce qu'on a tendance à l'oublier. Hein. Le report de la vaccination obligatoire a fait en sorte que le gouvernement a gagné en partie son pari. Il y a 2164 infirmières qui ont répondu à l'appel du gouvernement sur un total, sur un objectif de 4000. Il semblerait que le gouvernement est en discussion avec 2800 d'entre elles. Fait qu'à la fin de la journée, peut-être que le gouvernement va atteindre son objectif, va gagner son pari de convaincre 4000 infirmiers et infirmières de revenir dans le réseau public.
Nathalie, tu parles des enfants. Moi, j'en reviens pas. Juste une petite parenthèse sur les enfants. Là.
Oui.
Maintenant, ils portent le masque en classe et en éducation physique. Hein, tout le monde sait ça.
Oui.
Puis moi, je me dis, oh, ils vont le laisser tomber à un moment donné. Mais non, c'est le visage tout mouillé, le masque d'en face.
Oh.
Puis, et toi, je trouve qu'ils sont résilients. Hein, les enfants, ils sont finalement obéissants.
Ben, on a souvent dit que les enfants étaient moins anxieux que leurs parents. Ou en tout cas, que si les parents étaient anxieux, l'enfant devenait anxieux. Tu sais que moi, j'ai des parents qui disent, M. Arcan, c'est un drame dans les écoles. Mon enfant porte la main. Les kids n'ont pas l'air d'avoir trop de problèmes, de façon générale.
Écoute, quand t'as une autre, pas pire. On avait une partie de hockey en fin de semaine, puis on se rencontre, les parents, on attendait les enfants qui étaient en train de se faire sermonner, savonner sur un vrai temps. Ils ont perdu 6-0. Ah, 6-1. Puis là, le coach, lui, lâchait pas. 45 minutes dans la chambre, puis les plans de match. Puis, en tout cas, toujours est-il que il dit, on est tous les parents dehors. Puis il y a deux parents qui portent le masque dehors. Une infirmière puis une enseignante. On l'a découvert après qu'elles étaient enseignantes et infirmières. Je commençais à vous garder le masque. Oh, on est tellement habitués. Puis là, gardez le masque. J'aimerais parler des lits. On a à peu près quoi? 250 à 280 en ce moment personnes hospitalisées pour la COVID. Il y a 15 000 lits au Québec. Hein? Quand on dit que 15 000 lits courte durée dans les hôpitaux québécois. Quand on dit que la COVID exerce un gros poids sur le réseau de santé, il faut relativiser. Hein? Puis ce poids-là est en diminution. Quand on dit à un moment donné, il va falloir le prendre comme la grippe, comme une maladie, comme une autre, ben on est peut-être rendu dans ces eaux-là parce que je dis pas que ça va pas réévoluer un nouveau variant, etc. Là. Mais là, dans la situation dans laquelle on est, là, peut-être 250-280 lits sur 15 000 lits au Québec. Quand tu compares avec un autre fléau, c'est-à-dire les personnes âgées qui attendent de rentrer en CHSLD, comme elles n'ont pas de CHSLD, je vais pas faire comme M. Arruda, qui attendent donc de rentrer en CHSLD, mais parce qu'elles n'ont pas de place ou parce qu'elles sont à l'hôpital, on est à peu près à 185. Donc, il y a 185 lits occupés par des personnes pour un problème purement organisationnel, puis 280 à peu près pour la COVID. C'est plus des gros chiffres, c'est en diminution.
Ouais, mais c'est plus des gros chiffres, Luc, mais excuse-moi, ça crée tout un branle-bas de combat dans le réseau de la santé. À tes 185 lits s'ajoutent les 25 urgences, les pires 25 urgences du Québec, là. Vous avez vu la nouvelle, l'hôpital de Lachine qui relève du CUSUM, dont l'urgence va être fermée. Ben oui, entre 15h et 8h. Voyons donc, ouais, c'est comme, si ça a besoin d'une urgence, ça dit ce que ça dit, c'est une urgence. C'est une urgence, tu vas où? Tu vas dans l'urgence, mais là, l'urgence est fermée. Ajoutons à ça les médecins de famille. Maintenant, on apprend que 15% des médecins de famille prennent 500 patients et moins. Tout ça, c'est des petits chiffres, Luc, mais qui, additionnés, créent l'impression que c'est rien ne va plus dans le réseau de la santé.
Oui, Nathalie.
C'est quand même quelque chose d'assez fascinant là-dedans.
Sais-tu pourquoi? Parce que notre réseau, oui, parce que notre réseau de la santé, on l'a designé pour qu'il soit à la limite, parce qu'on voulait pas avoir de gaspillage. Tu sais qu'on a 3 fois moins de lits de courte durée que la France, mettons, et 2 fois moins que les États-Unis. On a choisi ça. On a choisi un virage ambulatoire. Peu de personnes qui restent à l'hôpital, on les renvoie à la maison, mais ça fait qu'on marche toujours à la limite. Puis avec le nombre d'infirmières aussi, on marche toujours à la limite. Et c'est pour ça que dès qu'arrive quelque chose, pif, ça a l'air important. Mais quand on relativise par rapport à d'autres maladies ou à part d'autres situations, il reste qu'on est en diminution.
On s'arrête.
Ça craque de partout.
Ça craque. On s'arrête là-dessus. Au retour, le salaire minimum à 20$. Est-ce que c'est une proposition qui est réaliste?
curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, le président du conseil d'administration de Cogeco, Louis Audet, hier, faisant un discours à Montréal, dit « Il est temps que le salaire minimum soit à 20 $ et pas à coût d'augmentation de 25 puis de 50 sous. Il faut donner un grand coup pour éviter, disons, une atteinte à la démocratie et à la cohésion sociale. Est-ce que c'est réaliste de penser ça? » Nathalie.
Ben c'est un beau rêve. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez été étonné, surpris d'une pareille déclaration du patron de Cogeco. Moi, j'ai envie de vous dire, rarement j'ai vu un membre du patronat être à ce point en diapason avec les revendications syndicales. Il faut se rappeler que la FTQ revendique un salaire minimum à 18 $ de l'heure. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très rafraîchissant dans le discours de Louis Audet. Tu aurais fait référence brièvement, Paul, il a dit, lorsqu'on laisse les inégalités sociales et économique croître, l'harmonie sociale disparaît et la démocratie est menacée. Wow! Moi, j'ai dit wow, wow, wow. C'est un discours qui suscite de l'espoir, qui va au-delà de la logique mercantile qu'on attribue généralement aux prises de position du patronat. C'est un discours qui est inspirant. Maintenant, il y a l'augmentation du salaire minimum. Il n'y a pas personne qui pense qu'au Québec, on va augmenter le salaire minimum à 20 $ de l'heure demain matin, compte tenu que le salaire est à 13,50. Mais ce que ce message renvoie, il renvoie une réalité qui est de plus en plus palpable dans notre société. Il y a beaucoup de gens au Québec qui pensent que pour régler les problèmes de pénurie de main-d'œuvre, pour éviter que les Québécois s'appauvrissent davantage, il faut augmenter les salaires. Pas juste le salaire minimum, augmenter les salaires. Combien d'auditeurs appellent à l'émission et me disent, Nathalie, à 20 $, 25 $ de l'heure, 30 $ de l'heure, je n'y arrive plus. Ça n'a plus aucun sens. L'augmentation des prix, là, qu'on a vu dernièrement, inflation 5,1, l'augmentation du compte d'hydro, qui selon moi, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase à 3%, ça, je vous le dis, là, c'est la première fois que je sens autant de gens dire là, j'y arrive plus, ça n'a plus aucun sens.
Ben moi, quand j'ai vu ça, regarde, 13,50 $, il propose donc 6 $ d'augmentation, c'est un peu plus de 40%. J'ai sauté dans le bureau du directeur, j'ai dit, moi aussi, je veux 40% d'augmentation. Écoute, si c'est bon pour papa, c'est bon pour maman, hein?
T'as raison, Luc. Ben, c'est probablement la réaction qu'on va avoir bien des Québécois en disant, si on augmente son salaire minimum, pour mon salaire augmente.
Et ne jamais oublier l'effet domino. C'est-à-dire que sur le superviseur, puis le superviseur.
Mais je suis pas sûr que le domino va se rendre jusqu'à toi, par exemple. Parce que là, bon, salaire minimum, il est calculé selon la mesure du panier de consommation. La mesure du panier de consommation, c'est cinq éléments, transport, aliments, vêtements, etc. Et c'est le minimum. Donc, c'est 50% du salaire moyen. Puis on dit, avec ça, si je te donne 50% du salaire moyen, puis je vérifie avec les cinq domaines de dépenses, tu devrais survivre. Mais si t'échappes... Ah, puis une nouvelle chose. Il y a deux, trois nouvelles affaires qui sont rentrées dans la mesure du panier de consommation. Premièrement, le cellulaire est rentré dans la mesure du panier de consommation parce que des lignes fixes, il y en a très peu. Puis si t'as pas de cellulaire, pas chercher un emploi, etc., ça se peut que t'aies des problèmes. De toute manière, ils ont pris cette décision-là. Ils ont abaissé le coût du transport. Donc maintenant, pour ceux qui sont obligés d'avoir une voiture, ils ont considéré que la durée de vie des voitures avait augmenté, etc. Ils mesurent ça comme il faut année après année. Mais ça, il reste que c'est le minimum. C'est-à-dire que si, avec ça, tu ne peux jamais aller au restaurant. Pas une seule fois dans l'année. Alors, si tu travailles 5 jours semaine, pas une fois dans l'année, tu peux amener ton lunch. Tu peux ne pas amener ton lunch. La vie, c'est plus compliqué que ça. T'sais. Un enfant échappe le cellulaire à terre, tu ne peux pas le faire réparer. C'est pas calculé dans la mesure du panier de consommation. Donc, est arrivé la FTQ. Qui a dit, nous autres, au départ, vous ferez rappeler qu'ils ont proposé 15 $, après ça, ils ont proposé 18 $ avec d'autres syndicats et d'autres associations. Ils s'appuyaient sur les travaux de l'IRIS. L'IRIS, c'est un groupe de gauche qui fait de la sociologie puis de l'économie. Et eux, ils disent, ben non, la vie, par exemple, on doit calculer un repas au restaurant par mois. Là, on parle pas du Ritz, là, mais un repas au restaurant par mois. On doit prévoir un peu de marge de manœuvre. Et comment on calcule cette marge de manœuvre-là? Ben, c'est la notion de choix. Il y a des fois où tu pourrais faire un choix. Par exemple, dans la mesure du panier minimum, t'as jamais de vacances. Jamais. À vie, t'as jamais de vacances. Tu peux pas aller une fois au motel dans ta vie. Ben, si tu travailles, comme tout le monde, 40 heures semaine. Ça se peut que pendant la canicule, tu veuilles emmener tes enfants 3 jours quelque part. Le revenu minimum, le revenu viable, minimum viable, calcule ces affaires-là. Et M. Audet, donc, s'est basé là-dessus pour dire, il peut y avoir des citoyens qui font des choix, qui sont heureux dans la société, on ne peut pas leur donner le minimum.
Non, effectivement. Et lorsqu'on parle du salaire minimum, là, on parle de 284 000 salariés au Québec. Ça semble peu, mais tu le dis, Luc, c'est significatif. En fait, le gouvernement a quelques choix devant lui. Bon, oui, on peut effectivement augmenter le salaire minimum de façon plus importante qu'à coût de 50 sous de l'heure, avec toutes les analyses économiques qui vont suivre. Parce qu'à chaque fois, le discours du patronat, entre guillemets, est toujours le même. Si on augmente le salaire minimum de façon trop importante, il y a des entreprises qui ne pourront pas suivre. Ça, effectivement, c'est une réalité. L'autre réalité, c'est face à cette augmentation du coût de la vie, là, on parle d'un coût de l'essence peut-être anticipé à 2 $ du litre, imaginez. Tout ça va avoir probablement un effet à la hausse, un effet inflationniste. Alors oui, il y a des ménages, effectivement, qui vont continuer à en arracher. L'autre option, c'est de donner une compensation ponctuelle aux Québécois. Le ministère des Finances se penche là-dessus. Je voyais hier, à quelques mois d'élection présidentielle en France, le gouvernement d'Emmanuel Macron a décidé de donner à 38 millions de Français ce qu'ils ont appelé l'indemnité inflation. Un chèque de 100 euros, ce qui est équivalent à peu près à 140 quelques dollars ici au Québec. Question de faire face à l'augmentation du coût de la vie auquel s'ajoute pour 5,8 millions de Français un chèque énergie. Alors, ils ont décidé de ne pas diminuer les taxes, mais de donner un chèque de façon ponctuelle pour diminuer, effectivement, soulager un peu, donner un peu d'oxygène aux ménages. C'est la solution facile, payante politiquement, on s'entend. Lorsque tu viens jouer dans les salaires, tu joues sur les taxes, évidemment, ça complique un peu les choses. Et puis, ça a des effets, évidemment, souvent, qui peuvent être, peut-être non anticipés et qui peuvent causer un préjudice à long terme sur notre économie. Mais clairement, je pense que ce qu'il faut retenir du discours de Louis Audet, c'est que les inégalités se creusent entre les plus riches et les plus pauvres. La classe moyenne s'effrite. Moi, je le constate et je trouve ça absolument... Il y a quelque chose de préoccupant de là-dedans. Et le gouvernement doit être sensible à ça. Dire quel plan de match on peut déployer à moyen et long terme pour éviter réduire les inégalités entre les gens.
Mais dans le plan de match, il faut nécessairement tenir compte de la pénurie de main-d'œuvre.
Oui.
À chaque fois que le patronat ou les patrons dans différents domaines ont dit non, c'est impossible. Dans les domaines, on les connaît, au salaire minimum, hébergement, restauration, épicerie, agriculture, travailleurs agricoles, etc. Bon. Là, ils disent.
Mais je reprends ton argument, je t'entendais vendredi, tu sais. M. Legault, là, qui veut augmenter le salaire des éducatrices de façon substantielle, tu sais, bon. Tu dis, OK, là, t'en veux 17 000 de plus? Quand tu prends leur salaire, là, elles vont trouver quoi comme logement?
Exactement.
Je veux dire, à un moment donné, là, même si tu fais 50 000 par année, là, quand la part du budget qui est consacrée au logement, je veux dire, ça va être 80%, puis il va te rester quoi, là?
Totalement, il y a plein de gens qui payent 50 à 80% de leur salaire en logement. Puis la différence, c'est entre les logements calculés par la SCHL, c'est-à-dire l'ensemble des logements, un 3,5 à 600 $ dans la région de Montréal, mais sauf que les logements affichés sont à 1100 $, un 3,5 dans la région de Montréal.
Oui. Luc, est-ce que je peux te dire que le gouvernement a fait un choix? Parce qu'en fait, le gouvernement fait toujours des choix. Il y a une organisation qui a évalué que pour permettre à Montréal de régler son problème de logement commandera un investissement de 10 milliards de dollars. OK, on veut régler le problème de
l'accessibilité. Oh, je sais où le trouver! T'as pas dit le bon chiffre,
Nathalie. On a trouvé le 10 milliards ici en studio.
Tadam! Oui. Le troisième lien!
Voilà! Peut-être. Mais le REM à Montréal, on a fait un choix. On a dit, on va investir collectivement 10 milliards pour construire un REM dans l'est de la ville de Montréal, plutôt que d'investir 10 milliards pour résoudre et régler une fois pour toutes les problèmes d'accès au logement. REM au troisième lien, ça va, là. Je comprends, là.
Oui.
Ça va te faire plaisir, Luc. OK, c'est correct. Mais juste vous dire qu'on fait des choix de société. Le gouvernement a fait un choix politique et avec les conséquences que ça a.
Merci à tous les deux. On vous retrouve demain. Nathalie, évidemment, à 10h.
C'est 23.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.